13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis heureux de vous retrouver comme chaque jour jusqu'à 16h et en direct pour échanger sur ce que vous vivez. À mes côtés, ma camarade Ombline, comme chaque jour, bonjour ma chère.
Bonjour.
Comment
Olivier,
allez-vous?
Bonjour à tous, ça va bien, merci.
Pendant cette heure, nous allons partager vos expériences, nous allons parler de ce que vous ressentez, de vos joies, de vos peines, votre vécu nous intéresse. Le suicide est un sujet tabou. Pourtant, presque 10 000 personnes mettent fin à leur jour chaque année en France. C'est plus que les accidents de la route, mais on en parle finalement très peu. Pour les proches, pour ceux qui restent, le suicide pose évidemment 1000 questions. Il fait naître la colère, la culpabilité, une profonde tristesse et puis surtout une grande incompréhension. C'est un deuil très particulier qu'est le suicide. Et puis, il y a la vie après. Comment faire face? Il faut apprendre à vivre avec le drame, avancer malgré tout. La vie qui continue alors que l'on est bouleversé, les mois, les années qui passent. Avec elle, des petites et des grandes victoires, des perceptions qui changent, qui évoluent. Le suicide d'un proche, la vie après, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et vous témoignez au standard d'Europe 1 3921. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1. Ou bien sûr, comme chaque jour, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Daniel sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Daniel.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Donc j'ai 43 ans, je suis originaire des Sables-d'Olonne et j'habite une petite commune à 10 km au sud de La Roche-sur-Yon en Vendée.
D'accord. Alors Daniel, votre mari a mis fin à ses jours il y a maintenant 11 ans. Vos enfants étaient alors âgés de 4 et 6 ans. On imagine votre douleur, on imagine le choc. Est-ce que très vite vous vous êtes retrouvé face à une foule de questions, alors un questionnement personnel, aussi bien que des questions émanant de vos enfants?
Alors oui, c'est ça, c'est une grande incompréhension au départ. On se dit que ce n'est pas possible. Moi, je n'ai rien vu venir. Ma famille et ma belle-famille non plus. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de questions tout d'abord. L'incompréhension, la culpabilité justement de ne pas avoir pu ou su faire ce qu'on aurait peut-être pu ou faire.
Oui. C'est quelque chose qui revient constamment. Ça, en fait, on n'a pas su, on n'a pas vu. Est-ce que je peux vous demander dans quel, comment ça s'est passé en fait, pas comment ça s'est passé le suicide, mais dans quelles conditions en fait votre mari souffrait d'une dépression? Est-ce qu'il y avait quelques signes qui pouvaient montrer qu'il était malheureux déjà?
Alors, il n'était pas déclaré dépressif. Enfin, voilà. Certes, il était anxieux, angoissé, oui. Maniaque. Mmh. Après, de là à penser qu'il voulait mettre fin à ses jours, non, on était tous loin d'y penser. Et voilà, c'est très brutal et incompréhensible.
Ça a été un choc donc très, très brutal pour vous. Vous avez été très rapidement pris en main par un psychiatre. C'était indispensable, selon vous, d'être tout de suite aux côtés de quelqu'un qui essaie de vous donner des explications?
Oui, donc en fait, moi, je n'ai pas vu du tout notre psychiatre. Ce sont les enfants qui ont été suivis par une pédopsie dès le soir même, en fait.
Oui.
Donc, voilà. Oui, c'était indispensable pour eux, bien sûr, parce que moi, je savais pas du tout comment m'y prendre. Et je pense que les pédopsies sont là pour ça. Et ça les a vraiment beaucoup, beaucoup aidés. Et vraiment, je pense que oui, c'est indispensable.
Dans quel état étiez-vous, juste après ce choc? Est-ce qu'on peut parler de sidération, d'un état où on est comme en pilote automatique, où on finit par faire les tâches courantes du quotidien, mais sans savoir vraiment ce qui nous motive à les faire?
Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est là sans y être vraiment. Moi, j'ai des souvenirs très flous, en fait, des jours qui ont suivi le décès,
oui.
Notamment la sépulture. Je me souviens très peu de ce qui s'est vraiment passé, comme si j'y étais, mais sans y être en pleine conscience, en fait. Et puis rapidement, c'est vrai, ben voilà, il y avait les enfants, 6 et 4 ans, qui étaient là.
Ouais.
Sachant que les enfants, ce sont des éponges, donc voilà, si je n'allais pas bien, voilà, ils le ressentaient et je sentais bien qu'il fallait que je me relève rapidement pour qu'on continue, pour qu'on avance. Et puis c'est vrai que j'étais très entourée par ma famille et ma belle-famille. Donc ça, c'était très, très important pour nous aussi.
Vous avez décidé de reprendre le travail, hein, je crois, rapidement.
Oui, en fait, c'était...
C'était une façon de d'être à nouveau dans l'action, de ne pas être envahi par, en permanence par ce qui venait de se passer.
Exactement, oui. En fait, il est décédé le jour des vacances scolaires. On avait 3 semaines de congés à suivre.
Oui.
Et j'ai repris le travail à la suite de ces congés, effectivement, pour reprendre une vie sociale, en fait. Parce que pendant ces 3 semaines, en fait, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent à l'esprit, sans avoir de réponse. Et puis, voilà, on tourne en rond, on tourne en rond. Et oui, pour moi, c'était indispensable de reprendre le travail. Et...
Mmh. C'est moi qui ont suivi. Lorsque vous avez travaillé, vous avez continué à vous occuper de vos enfants. Mais est-ce que vous avez pris le temps à ce moment-là de vous occuper de vous? Parce que souvent dans cet état de sidération, on s'oublie presque hein, lorsqu'on a des enfants ou lorsqu'on a autour des gens qui sont vraiment choqués. Et on a tendance à penser aux autres avant de penser à soi-même. Est-ce que il y a un moment où vous êtes mis quand même à penser à vous, à réaliser ce que vous traversiez?
Pas trop, c'est vrai. Je pense que j'ai un peu fui en fait ces idées qui me venaient à l'esprit. Donc c'est vrai, je me suis occupée au travail, je me suis occupée des enfants, et je pense que finalement ça m'a aidée à passer à autre chose. Au moins sur les mois qui ont suivi. Mes enfants m'ont porté, en fait, parce que voilà, ils sont pleins de vie et malgré le fait d'avoir perdu leur papa très tôt dans leur vie,
oui.
Il fallait de toute façon leur montrer que la vie est belle quand même et voilà.
Je dois préciser pour ceux qui nous écoutent que certains de nos auditeurs peuvent être surpris par votre témoignage, dire que l'on n'a rien vu arriver. Or, j'ai moi-même autour de moi eu un cas comme le vôtre, une famille où on n'a rien vu arriver, mais rien du tout, et que ça arrive plus que l'on ne le croit en fait. Depuis les mois ont suivi, vous avez partagé avec d'autres familles cette expérience, vous avez eu besoin d'échanger avec d'autres familles qui avaient vécu la même chose que vous?
Alors, pas dans les mois qui ont suivi, ni les années, finalement. J'en parlais beaucoup, en fait, on en a parlé beaucoup en famille, parce qu'eux avaient vécu la même chose, finalement, que nous. C'est-à-dire que ma belle-mère a perdu son fils, enfin, mes belles-sœurs ont perdu leur frère, donc c'était... Voilà, on pouvait en parler entre nous. Après, j'ai tenté quelquefois d'en parler, voilà, des amis, l'entourage, mais on sent que, voilà, c'est difficile, parce que quand on n'a pas connu ce drame-là, ce départ brutal et
cette incompréhension...
Et puis c'est vrai que l'entourage rajoute un petit peu de culpabilité, enfin sans le faire exprès, mais c'est vrai que la première question, c'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, nous-mêmes, on n'a pas la même réponse, donc c'est très difficile d'échanger avec eux finalement.
On va voir que c'est aussi compliqué hein, pour l'entourage, un entourage qui parfois ne sait pas quoi dire, rester dans le silence ou poser des questions. Le positionnement hein, de l'entourage est souvent compliqué dans ce genre de choc. Vous restez en ligne avec nous, Daniel. Nous allons continuer de parler de l'épreuve que vous avez traversée et surtout comment vous avez réussi à revenir à la vie.
Europe 1. Comment se reconstruire et avancer après le suicide d'un proche? Olivier Delacroix vous écoute au 39-21. Si vous le souhaitez, vous réagissez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Comment les familles tentent de se reconstruire après le suicide d'un proche? Comment reprendre le cours de sa vie? Vous nous racontez votre parcours. Olivier Delacroix vous écoute, vous composez le 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Daniel qui nous expliquait dans la première partie de cette émission avoir vécu cet état de sidération qui fait suite au suicide de son mari. Et puis les questions de deux enfants de 4 et 6 ans. Daniel, vous dites que vous avez mis des années avant de vous poser et que tout vous est revenu de plein fouet. C'est-à-dire, racontez-moi comment tout ça est revenu.
Mais en fait, pendant toutes ces années, c'est vrai que j'étais très occupée et, avec les enfants et le travail, etc. Et puis maintenant que les enfants sont un peu plus grands, ils ont 15 et 17 ans aujourd'hui, donc plus autonomes, ça me laisse plus de temps. Et donc, je prends le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Et moi, je reste convaincue qu'on doit vivre pour nos défunts et non pas mourir avec eux.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'oublie rien. Enfin, on n'oublie pas ce qui s'est passé. On n'oublie surtout pas. Il est avec nous, dans notre esprit, tout le temps. Et il nous porte, en fait. Je pense qu'il nous a rendus plus forts. C'est-à-dire que les épreuves qu'on a encore aujourd'hui, on les passe et on sait qu'on va s'en sortir. Et que, encore une fois, la vie est belle et nos familles sont là pour nous entourer et nous aider.
Vous dites qu'il faut se laisser porter par la vie, reprendre confiance en soi. Qu'avez-vous fait pour vous sentir mieux, vous, en tant que femme?
me suis vraiment, je me répète, mais c'est vrai que je me suis vraiment consacrée aux enfants, c'est-à-dire que j'avais de leur donner une belle image de notre famille quand même. Donc c'est vrai qu'ils voilà, ils font de la musique, ils font beaucoup de sport, on s'est beaucoup investi dans plusieurs domaines.
Ouais.
Et aujourd'hui, enfin voilà, je pense qu'on est heureux malgré ce drame qui est arrivé il y a 11 ans. Ils font plein de vie et voilà, et c'est vrai que en plus voilà, j'ai des enfants extraordinaires donc.
Ça aide, ouais. Ça aide d'avoir des enfants extraordinaires qui tiennent, ouais. Qui vous montrent que voilà, la vie est belle, comme vous dites. Vous intervenez dans l'association Vivre l'absence. Pourquoi est-ce important pour vous de raconter votre histoire 11 ans après ?
Alors en fait, je suis tombée par hasard sur le site Vivre l'absence et donc j'ai vu que les familles rurales organisaient des soirées d'échange autour du suicide. Et voilà, je me suis dit, bien, pourquoi pas. Donc c'est vrai qu'au début, j'y allais un peu pour moi, pour échanger sur mon expérience, etc. Et finalement, je me rends compte que, étant donné que j'ai du recul maintenant avec mes 11 ans passés,
oui.
Ça me permet en fait de donner un peu d'espoir à ceux qui viennent voilà, à ces soirées et qui connaissent ce deuil, qui ont connu ce deuil très récemment.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est vrai qu'il y a toutes ces étapes à passer, la colère, l'incompréhension, la tristesse, etc. Et j'ai envie de leur dire, eh bien oui, ces étapes, elles sont indispensables, je pense, pour se relever après.
Mm-hmm.
Donc c'est vrai qu'au début, c'est des efforts. Il faut faire des efforts pour aller vers les autres. On fait des efforts pour continuer les réunions de famille, fêter les anniversaires, etc.
Mmh, mmh.
Mais ça vaut le coup parce que ça nous permet en fait d'accepter cette absence, mais de se rendre compte aussi que même si voilà, on a connu un drame de ce genre, eh bien voilà, on peut continuer et on peut être heureux et voilà, le faire vivre à travers nous en fait.
Mmh. Est-ce que dans l'acceptation, l'étape de la compréhension de ce passage à l'acte a été important pour vous? Est-ce que vous avez eu des réponses par rapport à cela? Parce que je sais que souvent, voilà, l'acceptation de continuer à vivre, s'autoriser à être heureux, ça passe par la compréhension de ce qui s'est passé, voilà, de l'explication, de donner un sens, pour peu qu'on puisse en donner un, au geste de celui qui est parti.
Alors, je n'ai pas eu d'explication au geste en tant que tel. Ce qui résulte souvent des échanges, c'est que voilà, chez ces personnes-là, ils ont une souffrance voilà, insurmontable et pour eux, la seule issue est la mort. Après, il n'y a pas de raison comment dire, particulière. Il n'y a pas de
ça
raison
pas
rationnelle,
réfléchi.
En fait.
Oui.
C'est ce qui est dur à comprendre pour l'entourage, c'est que voilà, il n'y a pas de raison rationnelle. Je n'ai pas l'explication. Je me suis voilà, bon, on s'est tous posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais ça, en fait, l'acceptation, c'est plus justement de se dire non, on n'aura jamais la réponse.
Mm-hmm.
On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. On ne sait pas est-ce que c'est lié à son passé. On ne saura pas voilà ce qui s'est passé. Mais moi, ce dont je suis sûre, c'est que voilà, il voulait qu'on soit heureux, il ne l'a pas fait pour nous faire du mal à nous, mais voilà, c'était sa seule issue pour être en paix.
11 ans après, comment allez-vous, Daniel, et vos enfants aujourd'hui, comment vivent-ils ce qui s'est passé? Est-ce qu'on l'évoque encore ou c'est quelque chose qu'on évite, même si vous l'avez dit, hein, on y pense, il nous porte, il est là, mais vous allez plutôt bien?
On va plutôt même, oui, très bien. Le suicide, on ne l'évoque pas, on l'évoque plus. On l'a beaucoup évoqué, bien sûr, dans les jours, dans les mois qui ont suivi. Par contre, on parle voilà, très régulièrement du papa et il est toujours avec nous et dans des situations très anodines. Voilà, il n'y a encore pas longtemps, mon grand me demandait, mais au fait, on était à la pizzeria, il me demandait, mais au fait, papa, qu'est-ce qu'il préférait comme pizza?
Mmh.
Aujourd'hui, en fait, les souvenirs qui nous rendaient tristes, voilà, juste après le décès, et les mois et les années qui ont suivi, aujourd'hui nous rendent heureux,
plus
en
joyeux.
Fait.
Ouais. Mmh.
Voilà, plus joyeux. On est heureux de l'avoir connu, et voilà, il nous a donné beaucoup.
L'évocation de vous êtes croisés à un moment de vos vies respectives. Merci infiniment, Daniel, de nous avoir parlé de votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Christophe Forêt. Il est psychiatre, psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie. Il a notamment écrit l'ouvrage « Après le suicide d'un proche, vivre le deuil et se reconstruire », disponible aux éditions Albin Michel.
Et le témoignage de Julie sur Facebook. « Mon premier amour s'est suicidé à 19 ans. J'ai beaucoup culpabilisé car je connaissais ses idées, qu'il travaillait depuis qu'il avait 8 ans. Il avait déjà fait une tentative enfant. C'est retrouver l'amour qui m'a sauvée. »
Europe 1.
Ce deuil à part, après un suicide, comment arriver à se reconstruire quand un proche a mis fin à ses jours? Par quoi êtes-vous passé? Vous témoignez au 3921. Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1. Il était votre père, votre sœur, elle était votre compagne, votre enfant. Il a mis fin à ses jours. Quelle vie après pour ceux qui restent? Comment ne pas se laisser submerger par la question obsédante du pourquoi? On vous écoute au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Christophe Forêt, psychiatre, psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci.
Docteur, le suicide est encore tabou. On a du mal à en parler. On en parle au bout des lèvres. Pourquoi ?
C'est une mort qui entre guillemets, n'aurait jamais dû survenir. C'est une mort que la propre personne a décidé de s'imposer elle-même. Non pas tant d'ailleurs pour mourir, mais pour mettre fin à une souffrance qu'elle ne trouvait pas, pour laquelle elle ne trouvait pas un autre moyen d'apaisement. Et donc, ce qui est compliqué pour les proches qui restent, c'est que de se dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour apaiser cet apaisement qui l'a conduit à la mort? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour déceler que cette personne que j'aime tant n'a pas pu puiser dans l'amour que je lui donne pour trouver les solutions qui auraient pu la ramener à la vie? Et c'est en cela que les proches sont tellement, submergés de culpabilité, parce qu'ils se disent, mais quelle est la qualité de l'amour que j'ai pu donner si cet amour n'a pas été capable de retenir à la vie la personne disparue. Mmh. Et c'est dans le deuil après suicide, il y a vraiment une implication tellement puissante de remise en question presque de l'amour, du lien d'amour, de l'attention qu'on portait à l'autre, qui est une véritable blessure profonde pour la personne en deuil après suicide.
Cette culpabilité, elle paraît incontournable, hein, docteur, parce que comme vous l'évoquez, il y a tout un tas de questions. On ramène à soi finalement un acte qui n'a rien à voir souvent avec...
Exactement.
Et justement, dans votre ouvrage, après le suicide d'un proche, vivre le deuil et se reconstruire, vous proposez à vos lecteurs, non pas d'oublier, mais de nommer leur souffrance pour que la cicatrisation s'opère. Justement, par quoi commencer?
Justement, Daniel est un parfait exemple de ce que signifie le processus de deuil, notamment le processus de deuil après un suicide. On voit très bien que la plus grande peur des personnes qui perdent un proche, c'est l'oubli. Et oui. Daniel vient de nous dire, 11 ans après, que la souffrance s'est apaisée grâce au processus de deuil, qui est vraiment un processus bénéfique. Et en même temps, ne serait-ce que la semaine dernière, ils ont évoqué avec joie, avec plaisir, le souvenir de ce papa. Donc le deuil n'est pas l'oubli, au contraire, c'est absolument pas tourner la page comme trop de gens l'imaginent. Et une des premières choses, effectivement, c'est de nommer ce qui s'est passé. Alors peut-être pas forcément dans le détail auprès de tous les proches, mais de véritablement ne pas avoir peur, et pour les proches également qui écoutent ce témoignage, ne pas avoir peur de dire qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi ce qui s'est passé, raconte-moi ce que tu ressens, et aussi important, raconte-moi qui était cette personne que tu as perdue, et ne pas réduire, ça c'est essentiel, ne pas réduire la vie de la personne à son seul suicide. Ce n'est pas simplement une personne suicidée, c'est avant tout une personne. Mmh. Et dans le processus de deuil, on a tellement besoin de se réapproprier, toute la lumière de cette personne qui a disparu, et pas seulement relire toute son existence à l'aune de son suicide, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec tant de justesse, c'est que parfois on ne voit rien veut dire, parce qu'il y a parfois ce qu'on appelle des, pas tout le temps, mais bien sûr, mais des raptus suicidaires. C'est-à-dire que même 5 minutes avant, la personne ne sait même pas qu'elle va, par exemple, se jeter par la fenêtre. Mmh. Et ça, on le sait comme on le sait à travers les témoignages de personnes qui ont fait des tentatives de suicide et qui ont survécu, parler, oui. Et qui disent, mais 5 minutes après, je ne savais même pas que j'allais faire ce geste-là. Mmh. Donc, je ne dis pas que c'est tous les suicides, mais vraiment, parfois, il y a une incompréhension complète. Et aussi, dans le fait de ne pas voir venir, c'est que une fois que la personne a épuisé toutes les ressources pour essayer d'apaiser sa souffrance, elle a enfin trouvé sa solution, se tuer, non pas se tuer elle, mais tuer la souffrance qu'il a bouffé à l'intérieur.
Oui. Étouffer la souffrance.
Une fois qu'elle a trouvé sa solution, elle est parfois dans le silence et elle fait tout pour que ses proches ne s'inquiètent pas et ne l'empêchent pas de passer à l'acte. Mmh. Et donc, elle peut se présenter, au contraire, même la veille de son suicide, comme étant enjouée, détendue, à l'aise, et le lendemain passer à l'acte, parce que justement, elle est enjouée, détendue, parce qu'elle a enfin trouver la solution qui a une souffrance qui la taraude peut-être depuis des années. Et là, les proches sont complètement désarçonnés parce qu'ils disent « mais il allait bien hier ». Et on se rend compte parfois que les lettres qui sont déposées, qu'on trouve près du corps par exemple, sont des lettres qui sont écrites peut-être 15 jours ou même 3 semaines avant, avant le décès, et que la veille, la personne allait vraiment bien. Donc il faut voir aussi que la personne a peut-être volontairement faussé les pistes pour qu'on ne l'empêche pas de se suicider.
Alors justement, docteur Christophe Auret, Ombline doit vous lire un témoignage. Allez-y, Ombline.
Oui, c'est Véronique qui témoigne au 39-21. Elle nous dit « J'ai 3 de mes frères et sœurs qui se sont suicidés. Ça pose beaucoup de questions. On cherche toujours une bonne raison à ces actes. Mais je pense qu'il faut voir du côté de la maladie. Je voulais dire aux auditeurs que nous cherchons une raison génétique à ces actes. » Les suicides comme ça dans une famille quand on a plusieurs.
Là, il y a une question de est-ce qu'il y a une question de transmission de génération en génération ou que vous évoque ce témoignage.
C'est vraiment compliqué. On commence à soupçonner, mais c'est encore rien de définitif. Par exemple, que la schizophrénie est liée en partie, parce que c'est il y a plein de facteurs différents, en partie il y a des causes génétiques. Mais on sait par exemple qu'il y a possiblement des causes génétiques dans les troubles bipolaires, et on sait que dans le trouble bipolaire, il y a la mélancolie qui expose beaucoup plus au risque suicidaire, ou même au suicide. Donc il y a bien sûr des composantes extérieures, mais il y a un point important qui est là et qui fait toute l'importance de prendre en charge émotionnellement et psychologiquement les personnes en deuil après suicide. C'est une espèce de contagion. Vous savez, on a entendu souvent parler de ces écoles où il y a un étudiant qui se suicide, et en fait il y a une traînée de poudre, et plusieurs étudiants font des tentatives de suicide dans des lieux clos comme des prisons ou même dans des entreprises. En fait, il y a une espèce de contagion suicidaire qui fait que les gens ne sont pas forcément suicidaire en tant que tel, mais la personne qui se suicide, elle ouvre une porte, un espèce de possible,
elle montre une
pour
solution.
Arrêter la souffrance. Oui. Et les gens qui sont en souffrance se disent, tiens, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc là, on n'est pas du tout dans quelque chose de génétique, mais on est dans une espèce d'autorisation, je mets des guillemets bien sûr, autorisation donnée par la personne suicidée de se dire, oui, tu peux prendre cette option.
On est dans la représentation d'une option à laquelle on n'avait pas pensé, d'une solution, parce qu'on souffre aussi. Et puis tout à coup, celui qui passe le pas, eh bien, ouvre une sorte de brèche. Docteur Christophe Auret, je rappelle que vous êtes psychiatre et psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie. On va continuer à profiter de vos éclairages. Et dans quelques instants, nous accueillerons Sébastien. Il a perdu sa fille de 14 ans, il y a bientôt 5 ans. Un deuil très difficile, mais année après année, la douleur s'apaise un peu et on va voir comment.
Europe 1. Comment être à nouveau heureuse et heureux après le suicide d'un proche ? Comment arriver à continuer ? Quel est votre parcours ? Vous témoignez au 3921. Comment faire face après le suicide d'un proche ? Olivier Delacroix, vous écoutez au 3921.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Sébastien. Bonjour et merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1, Sébastien.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 50 ans et je vous appelle de Vendée.
D'accord. On a beaucoup de Vendéens, en fait, qui nous écoutent. Et donc, salue la Vendée, qui est très fidèle à Europe 1 depuis de nombreuses années. Sébastien, vous avez vécu ce qu'aucun parent ne devrait vivre, le suicide de votre fille unique, lorsqu'elle avait 14 ans. C'était il y a plus de 4 ans. Vous dites que le plus difficile dans le deuil, c'est le tsunami au départ, les montagnes à gravir ensuite. Expliquez-moi ce que vous entendez par là.
Si vous voulez, quand on a un enfant, inconsciemment, notre projection, qu'on se rend compte après, c'est-à-dire que déjà personne ne pense que décider avant son enfant. Et puis ensuite, quand ça vous arrive, surtout quand il y a au casino d'un coureur, c'est du jour au lendemain, une fraction de seconde, votre monde s'écroule. Il y a toutes vos projections. Alors, au départ, c'est la perte de l'enfant. Et puis derrière, c'est un effet domino. C'est-à-dire, c'est toutes les projections conscientes et inconscientes. Le fait de savoir que on ne passera pas son permis, ne passera pas son bac, ne passera pas les étés ensemble, pas de petits-enfants derrière. Donc, quand ça vous arrive à 45 ans, en fait, il y a une cassure. C'est-à-dire que vous saviez qui vous étiez avant que ça arrive et vous ne savez plus qui vous êtes après.
Oui.
C'est-à-dire que on est père, mais sans être père, on est.
C'est difficile de toute façon de savoir qui on est après, parce que on est Quel est votre sentiment? C'est que vous avez dû recommencer comme à vous reconnaître, à savoir qui vous étiez face à cet événement-là?
En fait, ça a vraiment un tsunami de l'intérieur,
oui,
qui fait que vous perdez tous vos repères. Mm-hmm. Du jour au lendemain, vous n'êtes plus parent. Vous vous retrouvez, moi, dans mon cas, je me suis retrouvé devant une boîte bleue.
Oui.
Parce que je n'ai pas pu voir le corps de ma fille, puisqu'elle s'est mise devant le train.
Oui.
Et du jour au lendemain, il y a ce vide déjà qui s'installe, le manque de la personne. Les pourquoi, on n'a jamais de réponse. C'est épuisant, c'est-à-dire qu'on est... On est vraiment épuisé, c'est une fatigue. Oui. C'est au-delà de la fatigue physique, j'ai connu la douleur physique, mais c'est vraiment au-delà, ça vous prend et vous ne pouvez pas le contrôler. C'est vraiment. Et petit à petit, après, les vagues s'atténuent, mais elles reviennent, et quand elles reviennent, on a l'impression de descendre aussi bas qu'au premier jour. Et on perd un peu la notion d'espace-temps, c'est-à-dire qu'au départ, on calcule en heures, en jours, en semaines. En semaine, en mois, on revient à la date. Moi, je reviens des fois à la date du 13 novembre 2014.
Oui.
Et on n'a plus d'espace-temps. C'est-à-dire que moi, 4 ans et demi, ça peut être 4 semaines et demie, ça peut être 4 heures et demie. On a une espèce de. Voilà, c'est l'espace-temps est complètement distendu. On n'arrive plus à se repérer dans tout ça.
Mmh. Alors, il y a bien évidemment cette difficulté à se repérer dans l'espace-temps, comme vous venez de le raconter. Mais il y a aussi sans doute tout un pan qui tient à la culpabilité de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su, comme l'évoquait Daniel dans la première partie de cette émission. Comment est-ce que vous avez fait face à cette culpabilité qui nous envahit lorsque un proche, et notamment un enfant de 14 ans, commet l'irréparable ?
Alors, j'ai une culpabilité masquée, entre guillemets, dans le sens où très vite, j'ai respecté le choix de ma fille. Je ne pouvais pas aller contre le choix de mon enfant.
Oui.
Donc, j'ai vraiment voulu accepter un peu son départ. J'ai accepté son chemin de vie en disant que c'est le chemin qu'elle a choisi. Elle a voulu partir. Et en fait, je me suis rendu compte que je me mentais un peu à moi-même. On passe beaucoup de périodes à se mentir à soi-même. On ne va pas voir les choses telles qu'elles sont. On est un peu dans le déni, conscient et inconscient. Et progressivement, en fait, ce déni, son voile se lève et on revient sur certaines choses qu'on croyait avoir réglées.
Mm-hmm.
Et là, ça vous remet dans la situation en disant, bah oui, bah, finalement, j'ai pas tant avancé que ça, mais d'un autre côté, et après, on se dit, bon, bah, ça veut dire que j'avance encore. C'est vraiment des étapes, et des étapes, ça se déroule pas comme une partition, c'est-à-dire que c'est pas les notes qui s'enchaînent, c'est des fois, vous revenez en arrière, vous réavancez sur d'autres plans, vous revenez en arrière sur d'autres plans, et c'est un côté qui est assez usant et assez déstabilisant.
Mmh. On évoquait tout à l'heure avec le docteur Christophe Forêt les étapes, la cicatrisation qui passe par un deuil fait d'étapes. Vous êtes intéressé à la mort, en tout cas de ce qu'il y a de mystique dans la mort. Après le décès de votre fille, vous vous êtes beaucoup intéressé aux expériences de mort imminente. D'abord, expliquez-moi ce que c'est que ces expériences de mort imminente et pourquoi.
Des gens qui ont frôlé l'autre monde,
oui,
et qui reviennent. Et c'est vrai, quand vous avez un être cher comme ça qui décède, j'ai jamais été vraiment confronté à la mort.
Mm-hmm.
Ce qui a été très dur, c'est le côté irréversible. C'est-à-dire que en tant qu'humain, la plupart des choses sont réversibles. Vous perdez votre travail, vous êtes triste, vous perdez votre amour, vous vous séparez, c'est des micro-deuils, tout ça dans la vie. Il y a toujours un côté irréversible. Quand on perd un enfant, il y a ce côté qui est vraiment irréversible. C'est-à-dire que même si vous avez d'autres enfants par la suite, voilà, cet enfant, il est perdu, entre guillemets, il est perdu, j'aime pas le terme, il est parti.
Ouais.
Donc je me suis intéressé beaucoup à la vie après la mort, tout ce qui était un petit peu médium et tout ça, j'étais déjà un petit peu intéressé avant, et ma fille avait un peu ce côté-là aussi.
Ouais.
Et je me suis rendu compte qu'en fait tout se regroupait, bon après moi j'ai eu la chance parce que ma fille me vienne me voir en songe et pas en rêve, donc ça m'a conforté dans cette idée, même si c'est très déstabilisant et que je
comprends en songe, personne, en songe. C'est-à-dire ouais,
je me suis adressé à elle comme je m'adresse à vous aujourd'hui.
D'accord.
Ouais. Donc, c'est un peu déstabilisant quand on réouvre les yeux parce qu'on est, content d'avoir entre guillemets ce contact, mais on est dans la douleur de confirmer la perte. Mais après, voilà, enfin, je reste persuadé que ma fille, elle est proche de moi. Plus j'avance dans le temps et plus je la ressens, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est une façon de se protéger ou pas? Mais moi, je le vis vraiment comme quelque chose, comment dire, de positif.
J'ai l'impression que parler d'elle vous fait du bien. J'y vois même un rapport à ce que vous venez d'évoquer, ce songe lorsque vous lui posez des questions, que vous évoquez un dialogue avec elle? Est-ce que en parler aussi établit comme une sorte de contact, même à travers le souvenir, l'évocation?
Oui, parce que je pense que quand on a vraiment aimé quelqu'un, notamment son enfant, ça ne se perd pas.
Mm-hmm. C'est ce que j'allais vous dire, vous l'aimez toujours.
Oui, ça se vit différemment, je pense que c'est quelque chose. Quand on aimait une personne un jour, on l'a aimé toujours.
Oui.
Et on l'aimera toujours, il y a toujours ce lien, tous les humains sont liés entre eux, il y a toujours un lien qui nous tient. Donc, et c'est vrai que moi j'ai eu la chance, vous voyez, au funérarium par exemple, d'avoir le sentiment, je lui ai dit, vas-y, voilà, pars, va vers la lumière, j'avais pas la chance de te marier, mais je te marie avec l'univers, il y avait toutes les fleurs blanches, il y avait tout ça. J'ai vraiment senti comme ça, donc pour moi c'était son chemin de vie que je respecte, même si c'est difficile en tant qu'humain. Mais je dirais, sur un plan spirituel, je suis en accord avec son choix de vie.
Sébastien, on va prendre l'avis du docteur Christophe Forêt. Docteur, on écoute le témoignage de Sébastien. Et j'ai envie de vous demander à quoi se raccrocher quand tout s'effondre comme ça, et notamment quand un enfant disparaît dans de telles conditions.
La seule chose à laquelle on peut s'y raccrocher, c'est l'amour qu'on a partagé avec cet enfant.
Ce que fait Sébastien.
Exactement.
Ouais.
L'amour qu'on lui a donné, c'est vraiment, à mon sens, la seule chose qui peut vraiment porter, même si l'amour, on se dit, mon amour n'a pas été assez, j'ai été défaillante en tant que parent parce que je n'ai pas aidé mon enfant à sortir de sa souffrance, il reste énorme. Beaucoup de gens disent, j'ai échoué en tant que parent parce que mon premier devoir de parent, c'est de le préserver. Mmh. Et non, sincèrement, je crois que le premier devoir d'un parent, c'est de l'aimer. Et même si on n'a pas pu accompagner son enfant, par exemple, dans un cancer, parce qu'il est mort, on n'a pas pu le protéger de son cancer, au moins, on peut l'aimer jusqu'au bout. Et bien, même dans le suicide, même si on n'avait pas connaissance du moment où il allait disparaître, le fait de savoir qu'on l'a aimé de tout son cœur, du mieux qu'on pouvait, c'est vraiment ça qui aide à soutenir. Et même Daniel nous disait tout à l'heure que ce qui l'a aidé à avancer, c'est aussi l'amour de ses petits qui restaient. Et elle a pu rester garder la tête hors de l'eau grâce à l'amour de ses enfants.
En tout cas, pardonnez-moi de vous interrompre, docteur, mais l'amour reste une étape très importante, c'est-à-dire que continuer d'aimer et ne pas oublier qu'on a aimé, mais qu'on continue d'aimer est une étape incontournable pour réussir à gravir la montagne qui est celle de la disparition d'un être cher comme celle d'un enfant. Merci beaucoup Sébastien pour votre témoignage. Christophe Forêt, vous restez bien évidemment en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous accueillerons Blandine. Elle a perdu son père il y a 2 ans, son papa comme elle dit. Elle a besoin aujourd'hui de parler, mais aussi de lire des témoignages sur le deuil pour apprivoiser le sien.
Et le témoignage de Peggy sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Mon papa a décidé de partir lorsque j'avais 5 ans et demi. Je n'ai fait mon deuil que récemment, 30 ans plus tard, après la naissance de ma fille et après un travail personnel. Peggy nous dit qu'elle a fait le deuil de son père, le deuil de ne pas savoir, le deuil de ne pas comprendre son geste.
Europe 1.
Un parent, un conjoint, un enfant qui met fin à ses jours. Comment ne pas se laisser ronger par la culpabilité? Comment continuer sa vie? On vous écoute au 39-21. Nous parlons de la vie après le suicide d'un proche. Comment appréhender l'existence après avoir vécu un tel traumatisme? C'est votre histoire, vous pouvez témoigner au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Blandine sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Blandine, soyez la bienvenue.
Bonjour, merci.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Blandine?
Alors, j'ai 35 ans et je viens de La Roche-sur-Yon.
D'accord. Alors, il y a 2 ans, Blandine, vous avez perdu votre père, votre papa, comme vous aimez l'évoquer, qui était plongé dans une profonde dépression depuis plusieurs années déjà. Ce que vous retenez des jours qui ont suivi son suicide, c'est votre entourage. Combien cet entourage a été présent? Cela vous a vraiment aidé à faire face à cet événement, à tenir, hein?
Ouais, tout à fait. Tout à l'heure, le mot tsunami a été évoqué. C'est vraiment ça qui se passe, qui s'est passé pour moi. J'ai l'impression d'être dans un tsunami. Mmh. Je pense que j'ai pas mal fonctionné au radar aussi en faisant les choses, mais il y a aussi eu des moments de vrais choix. Par exemple, pour la célébration de papa, on nous a proposé des choses et j'ai dit non, c'est pas pour mon papa, donc j'ai tout fait pour qu'on fasse quelque chose qui ressemble au mieux à papa. Voilà, les gens ont répondu présent. Ça s'est tout déroulé assez facilement. J'ai été très portée de ce côté-là. On a été très porté, voilà. Et après, bah, y a l'acceptation de, enfin, le vide. On ressent un grand vide. Accepter, c'est encore loin d'être fait parce que c'est encore là. Ça fera 2 ans le 20 et on a l'impression que c'était hier, quoi.
Vous avez aussi conscience que le deuil autour du suicide d'un proche est tabou. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que c'est à travers l'embarras qu'on peut avoir au bout de quelques semaines à évoquer celui qui est parti ?
Oui, je pense que déjà aborder l'absence d'un proche auprès de quelqu'un qui vient de perdre la personne aimée, c'est déjà délicat. Et là, il y a ça qui se rajoute, c'est la personne qui s'est donné la mort. Pour moi, c'est un peu. J'aimerais qu'on dise que c'est un cancer de l'âme quelque part qui touche la personne et peut-être que ça. Je mets des guillemets aussi. Peut-être que ça faciliterait l'acceptation de. Ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est épargné parce que c'est une maladie avant tout, hein, qui est quelque chose qui ronge le cerveau, qui nous dépasse et qui incite la personne à vouloir se débarrasser de sa peine et qui ne trouve que ça en fait.
Et comme vous le soulignez, qui arrive à tous partout, quel que soit le milieu, quelle que soit l'origine, c'est quelque chose qui peut toucher n'importe quelle famille, voilà, n'importe quel auditeur aujourd'hui qui nous écoute. Voilà, le suicide aujourd'hui est quelque chose qui n'a pas de milieu. En tout cas, voilà, n'importe qui peut être touché demain par ce choc. Vous lisez beaucoup de témoignages autour du deuil. Cela semble vous aider. Vous vous sentez moins seul lorsque vous évoquez ces témoignages ?
Oui. Alors, il y a les témoignages que je lis et en fait, les histoires sont toujours différentes. Mais il y a des mots auxquels se raccrocher, des choses auxquelles on pense et on dit « mais j'ai pas le droit de penser ça par rapport à ça ». Et en fait, si, parce que voilà, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à l'avoir pensé ou à l'avoir évoqué et ça fait du bien, ça fait du bien. C'est pas si évident d'en parler. Alors, tout à l'heure, Danielle disait qu'elle en parlait beaucoup avec ses proches proches. pour nous, c'est plus délicat d'en parler ensemble. Voilà, ça reste encore douloureux. Donc, peut-être qu'on ne s'autorise pas à partager encore notre douleur de ce côté-là. Voilà, les choses s'apaiseront peut-être et on en parlera avec plus de douceur aussi à l'avenir, j'espère.
Oui, bah vous avez entendu le témoignage de Daniel qui était qui parlait de 11 ans passés et qui évoquait au fil des années la vie apparaît belle et on emmène celui qu'on a croisé à un moment avec soi. En fait, je vais me tourner vers le docteur Christophe Forêt. Comment préserver son entourage, docteur, de sa propre douleur, faire en sorte qu'elle n'envahisse pas tout.
Ne pas préserver son entourage, c'est l'entourage qui doit nous préserver. D'accord. Au contraire, et vraiment s'il y a un message à passer aux personnes qui accompagnent des proches en deuil, c'est surtout de ne pas hésiter à prononcer le prénom de la personne, ne pas hésiter à la faire vivre. Alors bien sûr, les premiers mois, les gens sont très 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 présents autour de la personne en deuil, mais on se rend compte qu'après un an et demi, il n'y a plus personne, et au deuxième anniversaire, au troisième anniversaire, oui, on ne reçoit quasiment plus de SMS ou d'appels pour dire « je
comme
pense
si
à toi
tout le monde
ce
avait
jour-là
oublié.
Voilà. Et vraiment, la plus grande aide qu'on puisse apporter à quelqu'un en deuil, c'est de continuer, même après 5 ans, même après 10 ans, à évoquer le nom, les souvenirs, la mémoire de la personne qu'on a disparue, parce que au contraire, les gens pensent « je vais me taire parce que ça va lui remettre le couteau dans la plaie », mais soyons clairs, la personne en deuil pense tous les jours, même après 10 ans, après la personne qu'elle a perdue, et il est extrêmement apaisant et réconfortant de savoir que son entourage, même des personnes éloignées ou des amis éloignés, continue à honorer sa mémoire, et ça contrecarre cette grande peur, comme je disais tout à l'heure, des personnes en deuil, de l'oubli, que les gens oublient. Et donc, d'ailleurs, le fait d'être entouré, des études montrent que c'est le premier facteur pronostique d'un deuil le plus harmonieusement mené, avoir des gens autour de soi, mais des gens qui tiennent sur la durée. C'est bien de se mobiliser les quelques mois, mais surtout sur plusieurs années, dire le nom, dire que partager des souvenirs.
Dire le nom, ça, dire le nom et entretenir le souvenir de celui, encore une fois, voilà, qui est parti, mais qui est toujours présent dans les esprits. Docteur Christophe Fauré, vous restez bien évidemment en ligne avec nous. Blandine, merci d'avoir partagé avec nous votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Sophie, dont le conjoint s'est suicidé et elle n'a rien vu venir.
Le message de Lola sur Facebook, un extrait du message de Lola. « Mon frère s'est suicidé il y a 12 ans. Au début, j'étais en colère. Je ne comprenais pas, mais surtout, je cherchais n'importe quelle preuve pour me convaincre que c'était un accident. Puis, avec le temps, j'ai accepté son geste. Je ne lui en veux plus. On dit souvent que le suicide est un acte égoïste, mais au final, les égoïstes, ne serait-ce pas nous, de préférer de les voir souffrir intérieurement et les garder près de nous. »
Europe 1.
On parle de la vie après le suicide d'un proche. Comment êtes-vous arrivé à vous relever après le choc? On vous écoute au 39-21. Sur Europe 1, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la vie après le suicide. Comment avancer?
Et nous sommes maintenant en ligne avec Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour Olivier.
Bonjour, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous?
J'ai désormais 56 ans et j'habite à Strasbourg.
D'accord, alors... Vous, Sophie, vous avez vécu le suicide d'un conjoint qui est parti sans prévenir. Racontez-moi.
En fait, il faisait beau ce jour-là. J'avais beaucoup de choses à faire avec ma fille aînée d'un précédent mariage qui avait de gros problèmes d'yeux. Enfin bref,
oui.
On s'est disputé le matin même. Mm-hmm. Et puis à un moment donné, il m'a dit « écoute, je vais partir ». Je lui ai dit « écoute, va prendre l'air, hein, va prendre l'air ».
Vous aviez quel âge, pardonnez-moi, c'était
j'avais 40 ans. J'avais
d'accord,
40 ans.
D'accord.
Et j'ai emmené ma fille chez l'ophtalmo. Et puis je suis revenue vers chez moi. Et puis je vois beaucoup de... Je ne comprends pas. Je me dis « mince, qu'est-ce qui se passe là? Il n'est toujours pas là ». Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des heures qui passaient, qu'il ne reviendrait pas. Donc j'ai pensé à un suicide social au départ. Ce n'était pas un suicide social, c'était un vrai suicide. Je reviens sur ce que disaient vos différents intervenants auparavant.
Ouais.
Le cancer de la tête, c'est vraiment ça. C'est ce que disait Blandine, malade de la tête.
Mm-hmm.
C'était vraiment ça chez lui.
Vous dites que vous avez mis 3 ou 4 années à pouvoir en parler. Lorsqu'on parle du tabou autour du suicide, pourquoi avoir mis 3 ou 4 années pour pouvoir évoquer ce qui vous était arrivé?
Déjà au niveau de mon travail, c'était très compliqué parce qu'ils ont suivi les événements, et puis bon, il faut dire qu'on a retrouvé mon conjoint 6 semaines après son acte, donc
ouais.
Du coup ça a été très compliqué. Il y a eu cette attente, il y a eu donc derrière les gens n'en parlaient pas, c'était tabou, c'était donc du coup moi j'en parlais pas non plus. Et en fait, le soir, j'allais me coucher sur le canapé, j'allais même plus dans la chambre. C'était impossible pour moi d'aller dormir dans la chambre.
Ouais.
Et ça a duré comme ça des années, 3 ans minimum.
Comment est-ce que vous évoquez la disparition soudaine avec votre fils, de votre conjoint?
Alors, il avait 18 mois lors des faits.
Oui, donc c'est tout petit.
C'est tout petit. Alors, très vite, je me suis rendu compte de l'importance de lui expliquer les choses à peu près correctement,
mm-hmm.
pour éviter le trauma. Et en fait, ce que j'ai fait, je me suis très vite aperçue aussi qu'au niveau scolaire, ça ne suivait pas vraiment.
Oui.
J'avais bien indiqué sur les fiches le décès, et puis j'avais même vu la directrice en lui expliquant. Et je me suis rendu compte que le gamin, les fêtes, et puis même l'entourage des autres enfants était assez malveillant. Je pensais pas rencontrer autant de malveillance. Donc du coup, moi, j'ai voulu le protéger en me disant, mince, il faut pas qu'il le sache trop tard, sinon il va l'apprendre d'un autre, ce qu'il a failli se faire d'ailleurs, ce qu'il a failli se faire. Et donc, j'ai organisé ça à peu près pour en CM1, CM2, quand j'ai commencé à lui expliquer.
Ouais.
C'était très simple, avec des mots très simples. Et votre Blandine disait malade de la tête, cancer de la tête. Moi, je disais il était malade de la tête. Il avait une grave maladie de la tête.
Mmh. Et vous, en tant que femme, vous dites que vous avez mis 10 ans à vous remettre de ce geste. Par quelle étape vous êtes passée durant ces 10 ans?
Toutes les étapes qui ont été décrites dans l'émission.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire, c'était le déni, la colère. La colère n'est pas venue tout de suite.
Ouais.
Une espèce de mélancolie profonde.
Mmh.
Je me suis réfugiée dans le travail, bien entendu, dans l'éducation des enfants. Mais cela dit, j'ai des traces indélébiles qui m'empêchent de faire confiance d'une manière générale. Et ma fille aînée, qui avait 11 ans à l'époque, a un gros problème de personnalité par rapport aux hommes. Justement. Mm-hmm. Elle a du mal à faire confiance.
Mm-hmm. Aujourd'hui.
Toujours aujourd'hui. Ça fait des dégâts. Dégâts considérables. Maintenant, la vie, elle est belle et je suis quelqu'un d'assez positif. Je ne suis pas quelqu'un de négatif. J'aime bien regarder le soleil, je vois des petites choses tous les jours. Mais c'est un travail de chaque jour. Mmh. Et vous disiez, c'est votre intervenant qui disait, on y pense tous les jours, c'est vrai. Je confirme, 15 ans après, on y pense tous les jours.
Mmh. Et c'est une manière comme l'évoquaient tous les témoins qui ont participé à cette émission, de ne pas oublier et puis de continuer d'aimer. Ne pas oublier une étape, continuer d'aimer une autre étape. Toutes ces étapes qui composent le deuil lorsque l'un des nôtres décide de partir. Merci Sophie d'avoir partagé votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Daniel, à Sébastien, à Blandine d'avoir trouvé les mots pour nous raconter leur histoire. Merci au docteur Christophe Forêt pour ses analyses et ses éclairages. Subir le suicide d'un proche, c'est être confronté à un traumatisme, à une douleur qui ne s'éteindra jamais, on l'aura compris, mais avec laquelle on peut composer et où l'on peut continuer à vivre. Parler, partager son vécu, échanger, peut permettre d'aller mieux. Il y a des groupes de parole qui existent d'ailleurs, des associations comme Vivre son deuil, présentes partout en France, où vous pouvez vous rendre et évoquer aussi votre deuil. Ne restez pas seul en tout cas, et n'hésitez pas à consulter un thérapeute si votre douleur persiste et est insupportable. Ma chère Emeline, on peut continuer bien évidemment d'évoquer tout cela sur les réseaux sociaux.
Et aujourd'hui, presque plus que jamais, vous n'hésitez pas à partager entre vous, à partager ce que vous avez vécu, à échanger. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écrire sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. On n'a pas pu tous vous lire, alors je salue quand même Véro, Julia, Sandrine, Lolo, Patricia, Anne. Et si vous souhaitez, vous pouvez échanger le soir avec Sophie Peters, la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin. Sophie Peters qui vous attend tous les soirs de la semaine, et puis Sabine Marin le week-end. Si vous souhaitez vous confier, n'hésitez pas, le numéro ne change pas, c'est le 3921.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de ce à quoi beaucoup de nous font attention, le poids. Mais comment sortir de cette obsession? Alors, si vous faites des régimes à répétition et que vous surveillez votre poids en permanence, si vous êtes inquiet de voir qu'un membre de votre entourage est totalement obsédé par son poids, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous serons là comme chaque jour à partir de 15h pour vous écouter. Merci d'être aussi fidèles et de plus en plus nombreux à être là chaque jour à 15h avec Ombline et moi-même.